Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2022. Et on commencera par un dur retour à la réalité, les inégalités sociales. Toutes les études économiques le disent pourtant, le continent européen est moins inégalitaire que le reste du monde grâce aux services publics et à une fiscalité plus progressive. Mais cela ne résout pas tout. La crise du Covid a fait plonger les plus pauvres, c'est le cas en Italie, le pays a beau être le premier bénéficiaire du plan de relance européen avec près de 200 milliards d'euros, les inégalités se creusent, y compris à Rome où les aides alimentaires ont augmenté de 50%. C'est le reportage d'Olivier Bonnel.
Dans la périphérie est de Rome, le Quarticciolo aligne des barres d'immeubles décrépits. Dans ce quartier ouvrier, qui fut l'un des bastions de la résistance aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, habitent environ 10 000 personnes, parmi les plus modestes de la capitale. Tina est née dans ce quartier qui a beaucoup changé ces dernières années.
Ce quartier, je l'ai vu changer depuis 5 ou 6 ans. Et plus ça va, plus la situation empire. Vous voyez là-bas, au niveau de la place, il y avait une préfecture de police qui a déménagé. Il y avait plus de contrôle. Depuis qu'elle n'est plus là, le quartier s'est dégradé.
Mais la pauvreté du Quarticciolo a explosé au grand jour avec la pandémie de Covid-19. Tina l'a constaté à la paroisse du quartier où elle fait du volontariat.
Le nombre de gens qu'on aide a doublé. À présent, on a presque 80 familles à qui l'on distribue des colis alimentaires chaque mois. Mais la majorité d'entre elles reviennent au bout d'une semaine car elles n'ont plus rien. C'est de l'aide alimentaire surtout, mais en ce moment, elles demandent des vêtements, des chaussures. Il y a aussi quelques familles de Roms qui demandent d'être aidées.
Des familles invisibles, elles ne veulent pas parler. Et Tina nous emmène au bout de la rue, chez Anna, patronne d'un café depuis 22 ans. Son établissement est un bon baromètre du moral de la population au Quarticciolo. Et ces derniers mois, le moral n'est pas bon. Parmi les fidèles clients d'Anna, Loredana, qui anime un club de théâtre pour les jeunes du quartier.
La pandémie a exacerbé les inégalités qui étaient déjà là. Elles sont plus profondes. Les jeunes qui viennent au théâtre n'ont rien. On leur fournit tout, les costumes, mais aussi le goûter. Notre objectif est de leur montrer qu'il existe une alternative à ce que leur offre leur quartier.
À Rome, l'an dernier, plus de 200 000 personnes ont demandé de l'aide pour se nourrir ou pour payer une facture de gaz ou d'électricité. C'est près de 8% de la population de la capitale, des chiffres jamais vus. Ici, au Quarticciolo, c'est la paroisse qui est le point central pour les familles les plus modestes ou les personnes âgées isolées. Don Daniele est l'un des prêtres qui coordonne les activités caritatives.
C'est un quartier difficile avec beaucoup de problèmes familiaux et de travail. On est à la fois très proche du centre, mais tellement loin aussi, loin des institutions. Ces derniers mois ont été difficiles. Beaucoup de familles se sont appauvries. Beaucoup ont perdu leur travail et certaines ont dû pour la première fois demander de l'aide.
Depuis quelques mois, un centre d'accueil a été ouvert dans l'église pour écouter les besoins de ceux qui viennent se présenter et distribuer nourriture ou vêtements. C'est Gabriele qui gère cette structure. Selon lui, les inégalités qui se creusent devraient faire réagir sur les politiques publiques depuis trop longtemps négligées.
La pandémie a été le coup de grâce pour une population qui était déjà touchée par la crise. Elle a mis en évidence toutes les carences sociales qui préexistaient. Comme beaucoup de pays d'Europe, l'Italie sortait à peine d'une période de grosses coupes dans les dépenses publiques, comme dans les hôpitaux. Les gens se sont appauvris, pas seulement à un niveau individuel, mais appauvris socialement à cause de la réduction des services publics.
Au Quarticciolo, la piscine municipale, située à deux rues de l'église, a fermé il y a quelques années. C'était pourtant l'un des rares lieux de sociabilisation du quartier. Fermé depuis longtemps aussi, le cinéma. Il y a fort à faire pour que l'espoir revienne dans cette périphérie de Rome, comme dans beaucoup d'autres quartiers voisins, surtout que le sort des habitants semble peu intéresser les responsables politiques, comme déplore Tina.
Non, personne ne vient, même lors des récentes élections municipales. On se sent un peu abandonné. On ne se sent pas protégé. Ils devraient plus venir écouter les personnes, pas rester deux minutes et repartir. On ne juge pas un quartier en deux minutes.
Le plan de relance italien prévoit 1 milliard d'euros ces 5 prochaines années pour la ville de Rome, afin qu'elle améliore notamment ses infrastructures et ses logements. Une somme qui ne sera peut-être pas suffisante pour lutter contre le sentiment d'abandon dans les quartiers pauvres de la capitale italienne.
Début janvier, c'est aussi le moment où l'on publie les chiffres officiels de l'année économique écoulée. Et en Turquie, les bilans ne sont pas bons. 36% d'inflation sur un an, un record depuis 2002. Et ce sont les produits alimentaires qui ont le plus augmenté, de 44%, ce qui creuse les inégalités à Istanbul, à Nandlaouar.
C'était un peu le socle du contrat social entre Recep Tayyip Erdogan et les électeurs lorsque son parti, l'AKP, a gagné pour la première fois des élections en 2002. Dans un pays qui sortait tout juste d'une grave crise économique, l'AKP promettait de mettre un terme à la pauvreté, d'assurer une hausse continue du pouvoir d'achat des Turcs et de réduire drastiquement les inégalités. Pendant une dizaine d'années, Recep Tayyip Erdogan a peu ou prou rempli son contrat. Le niveau de vie des habitants s'est élevé comme jamais et la croissance, tirée en grande partie par la consommation, a permis l'émergence d'une classe moyenne dans laquelle l'AKP trouvait son réservoir de voix. Le pic est atteint en 2013, lorsque le PIB par habitant atteint 12 600 dollars, 4 fois plus qu'en 2001. Depuis, le pouvoir d'achat des Turcs n'a cessé de baisser, puis de fondre à partir de 2018, en grande partie du fait des erreurs du pouvoir mené par Recep Tayyip Erdogan. Pire, dans un contexte d'inflation galopante, les inégalités explosent. Selon le dernier rapport du World Inequality Lab sur les inégalités dans le monde, les 10% les plus riches de Turquie détiennent 67% de la richesse nationale, tandis qu'à l'inverse, les 50% les plus pauvres n'en possèdent que 4%. Plus encore que les atteintes quotidiennes à la démocratie, c'est cette précarité économique croissante et les différences évidente, très visible, de niveau de vie entre les Turcs les plus pauvres et les Turcs les plus riches, notamment au sein de l'élite dirigeante, qui risque de coûter son poste à Recep Tayyip Erdogan, si tant est que les prochaines élections soient libres et régulières. Elles sont prévues pour l'instant en juin 2023.
En France, 10 millions de personnes parmi les plus fragiles, celles qui survivent grâce aux revenus de solidarité, mais aussi les personnes handicapées, les enfants placés, sont accompagnées par des travailleurs sociaux. 1,2 million d'assistantes sociales, d'éducateurs leur viennent en aide. Mais c'est une profession aujourd'hui en souffrance, en plein désarroi, en manque de moyens humains et matériels, surchargés de travail et pas reconnus. Ils sont en grève régulièrement depuis le mois de novembre, un peu partout en France. Reportage de Lise Verbeck lors de la dernière grosse mobilisation nationale à Amiens, début décembre, avant une autre grève nationale prévue le 11 janvier prochain.
Qu'ils appartiennent au secteur privé ou au public, les travailleurs sociaux sont venus nombreux ce jour-là pour manifester leur colère.
Il est temps de se bouger, les travailleurs sociaux. On est en train de foutre notre travail en l'air. Et on ne peut plus travailler, c'est impossible.
L'humain est au cœur de leur métier, mais aujourd'hui, ils estiment que cela n'est plus la priorité. C'est en tout cas le sentiment de Julie, qui travaille depuis 10 ans pour une association qui lutte contre l'exclusion sociale à Amiens.
Aujourd'hui, on ne parle plus de famille, on parle de flux. On ne nomme plus les personnes en tant qu'individus sujets libres de faire leur choix, mais en tant que stock et flux. On nous demande en permanence de rendre compte de ce qu'on fait avec les familles, puisque c'est vrai que les demandes de financement ont changé et qu'aujourd'hui on est dans un principe de rentabilité alors qu'on travaille avec de l'humain et que même si effectivement à un moment donné il faut rendre compte de son travail, pour autant on a perdu de vue finalement toute la dimension éducative, sociale. Aujourd'hui la priorité c'est plus l'homme au cœur de nos accompagnements. C'est en fait finalement la gestion économique.
Et cela se traduit par un manque de moyens humains et matériels. Aurélien est éducateur dans la protection de l'enfance pour des enfants placés sur décision judiciaire. Il voit ses semaines se rallonger pour un peu plus du SMIC par mois.
Ça peut aller à des 40 heures en fait, selon s'il y a des arrêts maladie, et ça arrive généralement. Et c'est des arrêts qui ne sont pas remplacés parce qu'il n'y a pas de budget. On est épuisé, mentalement on est épuisé, physiquement on est épuisé. Et on a du mal à tenir le rythme en fait, parce qu'il faut être là pour les enfants et on a du mal à être là pour chaque jeune en fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est des jeunes qu'on accueille qui ont des situations de plus en plus difficiles avec un passé très douloureux. Et donc ça se traduit par des crises au quotidien qu'on doit gérer. Et quand on est seul sur le groupe, voire deux, et qu'il y a 12 enfants avec deux éducateurs, c'est très problématique de pouvoir gérer tous les enfants en même temps. Honnêtement, je ne me vois pas aller au-delà de 35 ans dans ce domaine-là. Si ça continue comme ça, non.
Et pourtant, Aurélien a 22 ans, c'est sa première expérience professionnelle. Jade, elle, a abandonné au moment de son stage de fin d'études d'éducatrice spécialisée. Une décision douloureuse qu'elle a dû prendre car ce métier, elle voulait l'exercer depuis toute petite. Mais ce stage l'a dégoûtée.
C'était un foyer avec des enfants placés et il n'y avait vraiment pas assez d'éducateurs. En fait, ils partaient tous. Donc c'était vraiment des conditions très difficiles et ils n'arrivaient pas à embaucher des gens en fait. Parce que personne ne voulait venir et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un, ils repartaient direct et les enfants étaient dans des conditions très difficiles. Ils se battaient entre eux, il y avait des grosses violences. Et à la fin de mon stage, chaque jour, il y avait des éducs qui se mettaient à pleurer ou des trucs comme ça.
Le métier n'attire plus, travail dans l'urgence, non-reconnaissance, frustration de mal faire le boulot. Et le Covid n'a rien arrangé, explique Renaud, qui accompagne des jeunes autistes.
Maintenant, nous, justement, on nous demande un minimum d'accompagnement parce que, comme les soignants, les personnes qui ont un handicap nécessitent un accompagnement. Covid ou pas Covid, il faut qu'on soit là. Donc on nous a même demandé d'être présent, d'assurer un minimum. Donc nous, on n'a pas été en confinement. On a dû ouvrir nos services pour continuer l'accompagnement. Et on nous a même imposé que d'être vaccinés comme les soignants pour pouvoir travailler. À côté de ça, la revalorisation salariale, le Ségur, limite, on s'assoit dessus. Et c'est dans ce sens-là que c'est pas forcément juste.
Après 20 ans d'ancienneté, son salaire tourne autour de 1900 euros par mois. Les travailleurs sociaux se disent en effet les oubliés du Ségur de la santé. Ils ne peuvent pas prétendre à la revalorisation salariale de 183 euros net prévue pour les professionnels de santé.
Ça ne vous aura sans doute pas échappé. Ce début janvier commence la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Une présidence tournante, mais qui peut permettre à la France de pousser les sujets qui lui tiennent à cœur. Le contexte politique paraît favorable alors qu'on trouve aux commandes en Allemagne Olaf Scholz, en Italie Mario Draghi et aux Pays-Bas Mark Rutte, des dirigeants dans des pays fondateurs de l'UE qui souhaitent tous plus d'Europe. Cela va-t-il aider? C'est la question que Juliette Orange a posé à Christine Verger, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors.
Ça me rappelle l'époque où Jacques Delors était président de la Commission européenne et où rien n'aurait pu avancer, évidemment, sans les propositions qu'il mettait sur la table, mais aussi sans la présence de dirigeants européens comme François Mitterrand, Helmut Kohl, Felipe González, qui formait à l'époque un quatuor qui a permis de faire avancer l'Europe de manière absolument significative. Vous me direz, c'est du passé, mais je crois qu'il est toujours vrai que quand il y a des personnalités à la tête de leur pays qui sont particulièrement engagées et qui ont des visions de moyen et de long terme sur les grands défis de l'Europe et du monde, ça permet de faire avancer les choses de manière bien significative. En espérant d'ailleurs que le président du Conseil italien le reste, puisqu'il y a des échéances importantes en Italie au mois de janvier avec l'élection d'un nouveau président de la République. Et on ne sait pas encore si Mario Draghi, le président du Conseil italien, sera candidat ou pas à cette fonction. Mais en tout cas, la conjoncture en termes de leadership et d'opinion publique, comme l'a rappelé Guillaume, est absolument favorable, même si 6 mois c'est court, certes, mais ça peut permettre de relancer un processus qui n'avait pas été stoppé ces derniers mois. Il y a eu beaucoup d'initiatives, par exemple sous présidence allemande en 2020, qui ont pu être concrétisées, mais ça peut permettre d'entretenir et de relancer un processus européen dans un sens dynamique.
Et pour tout comprendre sur cette présidence française, rendez-vous sur notre site à la rubrique podcast Carrefour de l'Europe.
Sacré français!
Allez, on prend un peu de distance et d'humour sur cette nouvelle échéance européenne pour la France et sur les prochaines élections présidentielles. Les prétentions hexagonales seraient-elles un peu démesurées? C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Si vous demandez à un Européen ce qu'il pense des Français,
il y a de fortes chances qu'ils vous répondent comme cette Anglaise.
French people, they've got great taste.
Les Français ont très bon goût en ce qui concerne la nourriture, la cuisine, la culture, l'art, etc. Mais en même temps, je crois que les Britanniques considèrent les Français comme étant un peu snob.
Snob, hautain, prétentieux, arrogant. Dans tous les pays, on le leur reproche. Prenez cet Allemand qui discute avec un Américain des clichés sur les Français.
Le premier stéréotype dont je voudrais discuter, c'est celui selon lequel les Français seraient arrogants et mal polis. Qu'est-ce que tu penses de ça, Tim ?
Ah, je ne savais pas que c'était un stéréotype, c'est juste un fait.
Pourquoi les Français ont-ils cette image détestable ? C'est vrai qu'en regardant les débats de la primaire des Républicains, j'ai trouvé le niveau de chauvinisme assez haut. Chez Philippe Juvin, par exemple.
L'identité, elle sera défendue si nous voulons la défendre. Si nous avons le sentiment que notre identité, notre modèle de civilisation, puisque c'est une civilisation, est supérieur aux autres. Nous avons inventé beaucoup de choses. Nous avons inventé l'histoire, la philosophie, la politique.
On parle donc de l'élection présidentielle française et il me semble que l'on vole beaucoup de choses aux Grecs, là. À moins que, pour ce candidat, la France ne soit la défenseuse naturelle de la civilisation occidentale, donc de l'héritage gréco-romain. Pourquoi pas ? Il faudrait peut-être demander aux autres pays ce qu'ils en pensent. Vous savez, les autres, le reste du monde. Parce qu'il y a la France et le reste du monde. Xavier Bertrand.
Nous ne sommes pas un pays comme les autres. C'est vrai, on peut nous le reprocher. Les Lumières, c'est nous. Liberté, égalité, fraternité, c'est nous. Vous savez, il n'y aura qu'un général de Gaulle dans l'histoire. Non, je suis désolé, on n'est pas un petit pays, on n'est pas un pays de seconde division.
Ok, les Français sont arrogants. Mais ce complexe de l'ancienne grande puissance coloniale, reléguée au rang de puissance moyenne, qui cherche encore à avoir de l'influence, les Britanniques font aussi partie du club. Les Français sont-ils pires ? Oui, à cause du français.
Je voudrais une question.
Les Français ne parlent pas de langue étrangère et ils ne veulent pas comprendre les étrangers qui tentent de communiquer.
Let me get a croissant. I'm sorry, I'll just take one croissant. Yeah, I don't know what you're saying right now. I just want a croissant. What? A croissant!
Et puis les en, les un, les on. Cette façon de parler par le nez est insupportable. Le sketch de l'humoriste italien Enrico Brignano sur les Français critique en fait le français.
Les charmants, les charmants, le colard, le cusicolard.
Car pour un Italien, il y a pire qu'un français. C'est un autre Italien qui a été en France et qui parle comme un français.
Enchanté, s'il vous plaît, toccami, toccate, olimorte, ma vava.
Un snob italien ne manque jamais de placer des termes francophones.
La pochette, il passe partout, il gilet, il bidet, il trouman, il comment, il papillon, le chiffon, il coiffeur, la cabriolet.
Vous entendez comme ça sonne snob, et c'est ancien. En 1910, deux auteurs bruxellois, Wicheler et Fonzon, écrivaient Le mariage de Mademoiselle Bellemans. Dans cette pièce de théâtre, Séraphin doit se marier à la fille du riche brasseur Bellemans et il a comme concurrent le français Albert. À quoi reconnaît-on un français en 1910 ? À son langage chichiteux.
Monsieur Albert, j'ai un service à vous demander. Allez-y. Mais pour ça, il faut que je vous fasse le confident d'une affaire confidentielle et très grave. C'est à propos de mon mariage.
Alors je vous prie de vous en tenir là. Je ne veux d'aucune manière être mêlé à votre mariage. Votre petit préambule où vous vous êtes montré hérissé de toutes vos mauvaises intentions à mon égard me met tout à fait à l'aise pour vous dire que moi non plus je ne me sens nullement attiré vers vous. Par conséquent, cherchez quelqu'un de vos amis qui puisse me remplacer en cette occurrence.
Bah, c'est impossible, ça !
Que les Européens se rassurent, dans une étude réalisée en 2013 par un think tank américain, les Français se désignaient eux-mêmes comme les plus arrogants d'Europe. Au moins, on ne leur reprochera pas de manquer de lucidité.
Et c'est sur cet exercice d'autocritique que se termine Accent d'Europe. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site, sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute préférées.